poudre vanille. J'aime bien la framboise.
Je pense que je prends deux boules vanille.
Deux boules vanille.
Je sais pas. Deux boules vanille.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous aujourd'hui pour l'émission De Boule Vanille, votre émission estivale sur Canal B. Une émission qui vous proposera un feuilleton. Tous les vendredis, vous retrouverez les quatre parties des Invisibles par Soisy Globaille, qui a décidé de s'intéresser à cinq métiers un peu cachés du cinéma. On entendra Rémi Giordano, scénariste, Colette Caisson, productrice, Frédéric Le Gall, lui, est repéreur, Laura Bucher est décoratrice et Sarah Turoche et monteuse. Vous retrouverez aussi une série musicale que je vous proposerai autour de ce genre dansant en diable, la Northern Soul. Qu'est-ce que c'est ? Vous en aurez un aspect aujourd'hui avec des vieux morceaux et puis des morceaux plus récents. Et puis on terminera cette De Boule Vanille du jour avec cette chronique proposée par Ronan Chaplin et qui s'appelle Morceaux de choix. Il a demandé à quelques mélomanes des morceaux bien marquants et comment ils ont pu être exposés à ces morceaux-là. Aujourd'hui, c'est Michael qui nous parlera tout à l'heure du monde de demain par Suprême NTM. Mais on commence De Boule Vanille avec Les Invisibles par Soisy Globaille, part 1. Pour commencer ce premier épisode des Invisibles par Soisy Globaille, c'est Rémi Giordano qui va nous parler de ce que c'est que le travail d'un scénariste.
Scénariste, c'est déjà plusieurs choses, en tout cas très techniquement. Un scénario, ça démarre par une idée, une envie, un désir. Alors moi, je marche beaucoup par l'image. Souvent, ça vient d'une image qui m'obsède. Et j'y pense beaucoup et ensuite j'essaie de construire un récit autour de cette image tout en étant très essayer d'être toujours ramener le reste à cette image de départ. Et donc écrire un scénario c'est finalement pas si différent d'écrire un roman, en tout cas quand on l'élabore au départ. C'est écrire un petit résumé d'une page ou deux qu'on appelle un synopsis, puis après on développe, on se casse la tête sur ces deux pages, puis après on écrit plus une dizaine, une quinzaine de pages, ça devient un synopsis long, voire ce qu'on peut appeler un traitement. Puis après on arrive à la vraie étape de scénario, donc les scènes, les séquences, les dialogues, la mise en situation des personnages. On aboutit à un objet de 90 pages qui en général passe par de nombreuses étapes encore, parce que développer un long métrage par exemple, ça peut prendre en moyenne 5 ans. En sachant qu'un film sur 5 se fait, donc il faut avoir beaucoup d'espoir. Ça fait un certain temps que j'ai des projets personnels de scénario que j'ai envie de réaliser, donc je fais la démarche de réalisation.
Ah, quand même.
Voilà. Aussi parce que j'ai été beaucoup co-scénariste avec des gens avec qui j'ai une des collaborations extrêmement intéressante, mais qui m'ont toujours un peu frustré une fois que en fait quand on co-scénarise souvent on accompagne le réalisateur, ça peut être de la première idée mais jusqu'à la dernière version dialoguée, puis après on est un peu oublié, mis sous le tapis, parce que le réalisateur a besoin de se réapproprier son œuvre et puis finalement de tuer le père, donc puis celui avec qui il a enfanté son projet. Et ce moment-là m'a toujours un peu frustrée de plus pouvoir participer finalement au passage à l'écran d'un texte qui est un scénario. C'est toujours voué à être mis à la poubelle plus ou moins. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on garde comme un livre dans une bibliothèque, quoi. Donc je sais qu'en tant que co-scénariste, j'essaie de ne pas avoir un rapport justement trop passionnel au texte que je co-écris, parce que justement après il faut que le réalisateur puisse s'en emparer et m'oublier, quoi.
Vous avez commencé à travailler en scénariste sur des dessins animés.
Oui, c'est surtout des commandes, donc c'est pas, le rapport n'est pas du tout le même. Le rapport émotionnel à l'écriture n'est pas le même. C'est, j'avais l'impression d'être un technicien de l'écriture pour l'animation, parce que c'était du format, c'était du 12 minutes, donc il fallait faire rentrer une histoire en 12 minutes. Et c'était très formateur, parce que de fait, j'ai appris à raconter des histoires sur un temps très court.
Un début, une fin.
Oui, un début, un milieu, une fin, beaucoup de péripéties. Malheureusement, moi, ce que je pensais être très créatif en animation pour les enfants, t'es quand même soumis aux règles des chaînes qui sont pas finalement pas très ouvertes ou moins ouvertes qu'avant. Donc, j'étais assez frustrée. J'ai fait ça pendant un an et demi, puis après j'ai arrêté parce que, en fait, on finit par recycler les mêmes histoires assez vite, même si les cadres des histoires sont différents. J'avais l'impression que je me répétais très vite, quoi. Et en fait, la plus grande surprise que j'ai eue quand j'ai commencé à écrire de l'animation, c'est que je pensais qu'on serait beaucoup plus libre qu'en fiction réelle, parce que a priori on peut dessiner tout et c'est pas très compliqué, c'est moins compliqué que moi j'ai travaillé sur une série avec des pirates, je me disais c'est surtout moins compliqué que de mettre un bateau dans l'eau et avoir des canons, etc. Mais en fait c'est beaucoup plus cher l'anime, c'est très très cher l'animation, donc on est très vite coincé par le budget, beaucoup plus qu'en réel. Et justement pour cette série sur les pirates, faire de l'eau qui bouge, c'est très cher, donc on a fini par mettre nos pirates que dans la ville. Ne prenez jamais la mer. Donc ça réduisait le potentiel d'histoire.
Vous avez travaillé sur le développement là d'un court-métrage qui se passe au XVIe siècle. Je veux bien que vous me racontiez la naissance de ce scénario.
Ce court-métrage, je l'ai écrit en partie parce que j'ai un projet de long métrage qui se passe au XVIe siècle, qui a ce contexte-là, et comme j'ai pas encore réalisé de film tout seul, il fallait que je fasse un court avant de faire un long. Donc le court est né d'une idée de long métrage que j'ai eue autour de la figure d'Henri III, qui est un roi, fils de Catherine de Médicis, qui est un peu une figure sous-estimée, selon moi, de l'histoire française, que j'essaye de réhabiliter dans un long métrage. Et pour pouvoir financer plus tard ce long métrage, j'ai décidé de faire un court. On a décidé conjointement avec mon producteur d'écrire un court qui me permet de mettre en scène ce personnage dans une histoire plus courte.
Au niveau des décors, des costumes, etc., l'investissement est quasiment le même pour un court et pour un long, non ?
En tout cas, en termes d'énergie, oui. Ce qui est bien, c'est que pour le court, on va défricher énormément pour le long. Donc, j'espère que le costumier, les comédiens, même le comédien qui avait interprété Henri dans le court, sera le même que dans le long. Donc, c'est un peu un travail préparatoire, le court, au final. Et on est un peu obligé de passer par là parce que il faut qu'on voit ce que je suis capable de faire en mise en scène sur du court pour passer au long.
C'est maintenant Colette Caisson, productrice, qui nous raconte son métier.
Qu'est-ce que c'est que d'être producteur ? C'est d'être... Il y a une société amie qui s'appelle comme ça, j'aime bien. C'est être un peu l'alter ego du réalisateur. C'est-à-dire qu'il y a parfois, pour vraiment parler à un public large, des gens qui comparent aussi avec maître d'œuvre, producteur, réalisateur, architecte. Bon, en tout cas, c'est un peu un duo qui est comme ça au centre des films, assez important. Sachant qu'effectivement, souvent le producteur est beaucoup plus dans l'ombre, et c'est bien, moi c'est une position qui me va très bien. Et en tout cas, dans l'ombre d'un projet, d'un film et de l'auteur qui signe ce projet. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Effectivement, on est présent, on est une des premières personnes qu'un réalisateur vient rencontrer quand il veut faire un film, quand il commence à l'écrire, parfois quand il a quelques idées en tête, donc ça part vraiment du tout début. Donc ça part d'une rencontre aussi, parce que c'est fondamental, en tout cas pour moi comme productrice, de travailler avec des auteurs avec lesquels j'ai envie de passer plusieurs années à échanger, avec qui, dont le projet, l'inspiration, le souffle m'intéressent. Donc c'est comme ça vraiment un duo qui est au cœur de tout ce travail. Et effectivement, c'est différents types de périodes. Alors, selon la taille des sociétés de production, le producteur est très engagé à toutes les étapes où il délègue et il est entouré. Mais en tout cas, c'est un métier qui démarre dès l'écriture de scénario, de toute cette phase qu'on appelle le développement qui est très importante, où on lit beaucoup, on est beaucoup le premier lecteur, le premier interlocuteur du réalisateur, éventuellement des scénaristes qui arrivent sur le projet, etc. Voilà, toute cette phase de développement est fondamentale parce qu'elle ancre un peu le désir du projet, les décisions d'orientation qui vont aussi être des décisions en fonction de qu'est-ce qu'on va aller chercher comme financement, en fonction de ce qu'on écrit, évidemment. Et puis après, bah, le producteur, c'est l'employeur, entre guillemets, c'est le patron. Donc effectivement, c'est lui qui embauche concrètement, par exemple sur un tournage, qui assure des questions de sécurité, qui embauche l'équipe, qui constitue l'équipe, qui organise toute la logistique, etc. Alors quand je dis « il », évidemment, selon la taille du projet, il est entouré d'un directeur de production, d'une équipe de production, etc. Mais c'est quand même lui qui est le garant officiellement un petit peu de tout ça. Voilà, sachant qu'évidemment, là on parle de choix de comédiens, de choix de techniciens. À chaque fois, c'est aussi des choix artistiques, c'est des choix financiers. Mais c'est des choix artistiques, donc c'est toujours des choix discutés avec le réalisateur. Voilà, on a plusieurs possibilités, des disponibilités ou indisponibilités. Voilà, et ça se discute et ça a un impact sur le projet et sur le budget du projet aussi. Donc c'est toujours très lié là, l'artistique, le financier, l'organisationnel, etc. Voilà, et puis le producteur il continue sa route aux côtés du réalisateur quand on est en post-production, à un moment où c'est très important de pouvoir porter un autre regard, parce que le réalisateur il est le nez dans ses images, il est un peu dans le deuil de ce qu'il a pas pu tourner, éventuellement ce qu'il a rêvé de tourner et qu'il a pas pu tourner, ou les bonnes surprises mais qui ont un impact sur effectivement comment on raconte l'histoire, effectivement, bien sûr. Donc dans toute cette phase de montage image, de montage son, de mixage, d'étalonnage, voilà, de moments où il faut fabriquer des génériques, etc. On est à deux, on discute, sachant que le producteur est très précieux pour la distance qu'il peut garder, parce que lui, il n'a pas une obligation à être au quotidien dans toutes ces salles de post-production. Mais justement, quand il arrive, ben, voilà, il peut marquer des évolutions, des améliorations, rediscuter d'une fin d'un film qui est forcément un moment très important. On avait écrit ça, est-ce qu'on termine le film au montage comme on l'avait écrit ou est-ce qu'on décide d'autre chose? Bon voilà, tout ça c'est des discussions un peu fondamentales où c'est très important, enfin en tout cas enrichissant pour moi d'avoir été là dès le début, c'est-à-dire qu'un réalisateur peut évoluer, etc. Le projet peut évoluer, mais c'est important de savoir d'où on va, quelles étaient les intentions d'origine. Voilà.
Frédéric Legal, à présent, nous dit comment on devient repéreur pour le cinéma.
J'ai commencé tout bêtement comme assistant régisseur à porter des cafés, faire des photocopies sur des tournages. Et puis avec les années, l'expérience venant du film en aiguille, on m'a demandé une première fois d'aller trouver un décor qui manquait sur un film. Et ça m'a beaucoup plu et de fil en aiguille, je me suis consacré à ça. Aujourd'hui, je ne fais plus que ça, des repérages. Et donc des repérages chez quoi? Et ben c'est comme un directeur de casting cherche des comédiens, et ben un repéreur cherche des décors en fonction d'un scénario. C'est vraiment notre outil de base au départ. On reçoit un scénario qui décrit plus ou moins les lieux où sont censées se passer les actions décrites dans le script. Et à nous de faire des propositions et d'incarner ces quelques lignes dans un scénario en un lieu qui existe vraiment avec des propriétaires d'accord et un environnement apte à accueillir un tournage. C'est très rare de trouver tout, c'est-à-dire à la fois les extérieurs, les intérieurs, tout exactement comme décrit dans le scénario ou comme le voudrait la réalisatrice, parce que c'est pas forcément très décrit dans les scénarios. Mais pour donner un exemple, il y a quelques années de ça, j'avais travaillé sur un film qui s'appelle Des vents contraires et où j'avais trouvé, en tout cas d'extérieur, le décor vraiment exactement tel que le voulait le réal. Une maison un peu hitchcockienne en paire de taille en bord de mer, un peu inquiétante. Mais par contre, à l'intérieur, c'était une maison de mamie avec un couloir central qui distribuait des petites pièces, un petit salon, une petite cuisine, une petite salle à manger. Et donc le réal est venu voir. Et il a dit bah l'extérieur c'est juste parfait, par contre l'intérieur faudrait tout casser. Les propriétaires ont fait glups au début, et puis on a discuté avec eux et en fait ils se sont dit en fait c'est le cas en or, parce qu'ils avaient toujours imaginé faire des travaux et sans jamais ni avoir le temps ou l'argent ni l'énergie soit lancée là-dedans. C'était leur maison secondaire et du coup ils ont choisi tous les matériaux avec le chef déco et on a tout cassé au rez-de-chaussée. À l'étage il y avait 6 chambres, on en a fait 3. Et donc on a vraiment complètement refait l'intérieur de la maison pour le tournage, mais en accord avec les propriétaires. Et derrière, ils étaient enchantés. Ils m'ont dit, mais c'est même les maçons du cœur, votre histoire là. Voilà, donc c'est pas forcément un handicap s'il n'y a pas tout sur place en même temps. On peut changer beaucoup de choses Des fois, j'ai vu même des fois abattre des murs pour les remettre. Enfin, c'est oui, rien n'est infaisable.
Je vous ai rencontré parce qu'il y a bientôt un tournage de Karine Tardieu sur Rennes.
C'est le troisième film que je fais avec elle, donc on commence à bien se connaître. Et c'est une réalisatrice qui est extrêmement précise dans ce qu'elle veut. Donc c'est déjà dans le scénario, c'est plutôt bien décrit. Et elle, en fait, elle pense en plus qu'en termes de scénario, elle pense en termes de découpage. C'est-à-dire quand elle aborde un décor, elle a déjà presque les plans dans sa tête, donc elle sait comment vont circuler les personnages à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement, par exemple. Et donc, il faut trouver exactement cette distribution, parce que tout son découpage est organisé comme ça, et les images qu'elle a en tête, elle a, c'est pas facile à adapter. Pour donner un exemple très précis, sur ce film-là, on cherchait le décor principal du film, qui représente quand même 5 semaines de tournage sur les 10 au total. Et c'est deux appartements qui sont censés être sur le même palier, et avec un appartement qui est avec des descriptions assez précises, un premier qui doit avoir une cuisine ouverte sur un grand salon, et le deuxième à l'inverse qui est une cuisine fermée, et avec quelque chose qui était très important pour Karine, c'est que depuis l'entrée de l'appartement, on ait une ouverture vers la pièce de vie et pas un mur ou un couloir. Donc on a cherché ça pendant 6 semaines, j'ai dû visiter une cinquantaine d'appartements sur Rennes. Et on a fini par en trouver deux, alors non pas sur le même palier face à face, mais dans le même immeuble, avec donc un premier appartement avec la cuisine ouverte, avec un deuxième appartement en face, mais qui appartient au même propriétaire, mais qui est beaucoup trop petit, qui ne nous intéresse pas. Mais au moins, on a la main sur les deux portes d'entrée sur le palier pour pouvoir tricher, et on a trouvé l'appartement d'en dessous, où là, il y a une cuisine fermée, donc il y a les mêmes balcons et donc à peu près la même vue, la même découverte à travers les fenêtres, et donc on va tricher le même palier avec juste à un étage de différence, quoi. Voilà. Mais ça a été long. Ouais.
Laura Bucher, décoratrice, nous parle à présent de son parcours débuté par des études d'architecture.
On peut dire que je suis décoratrice de cinéma. En ce moment, je suis première assistante décoratrice. Moi, je suis arrivée là, j'ai fait des études d'architecture. Donc j'ai fait mes études à Paris et j'ai fait une année de césure. Puis finalement, très vite, je me suis dirigée plutôt vers la muséographie, la scénographie. Donc j'ai fait des stages à l'Opéra Garnier, dans les musées, au musée d'Orsay. Voilà, un peu toute une année de stage comme ça qui m'a vachement stimulée. Ça m'a ouvert à tout un pan de la construction que j'avais pas en école, qui restait très théorique. Et puis j'ai fini mes études et en finissant mes études, je me suis quand même dit que il y avait quelque chose qui me titillait un peu, que j'avais pas essayé, qui était le théâtre ou le cinéma. Et de fil en aiguille, j'ai cherché un stage après mon diplôme et je suis tombée sur une amie de mon frère qui a le même parcours que moi, donc qui a fait une école d'architecture et qui travaille en ce moment en décoration aussi, qui m'a présenté une chef déco et j'ai fait mon premier stage comme ça en 2016. Ça remonte un peu. Et on m'a pris un stage justement pour dessiner. Voilà, parce qu'il y avait un peu de construction sur ce film. Donc fallait que je dessine les plans pour le chef constructeur qui allait reconstituer une maison. Voilà, comment ça a débuté.
Donc ce que vous avez appris à l'école d'archi vous a un petit peu servi quand même.
Bien sûr, ouais, ça me sert toujours, parce que du coup on dessine beaucoup. Moi je fais souvent des petites simulations 3D pour parler avec le réalisateur et parler avec le chef déco, qu'on ait un outil en commun pour avoir le même langage, pour un peu déterminer les espaces que le réalisateur va avoir. Et puis ça sert aussi aux autres départements, puisque les machinistes et les électros regardent aussi ces plans pour pouvoir faire leurs installations. Avant le tournage. Sur un projet, je travaille entre 3 et 4 mois. On a des tournages qui peuvent durer 6 semaines, 6 à 8 semaines sur un long métrage. Et nous, en préparation, on a à peu près le même timing. Donc on a à peu près 6 semaines de préparation avant le tournage. Et puis souvent, on a une semaine à la fin du tournage pour les remises en état et les rendus.
Vous construisez avec quoi par exemple? Avec quel type de matériaux? Parce que s'il faut démolir après, et il faut démolir après.
Alors on ne construit pas toujours. Donc, ça nous arrive de construire, mais c'est pas systématique. Et quand on construit, on construit avec du bois. Voilà, on construit des feuilles décor, ce qu'on appelle des feuilles décor, avec des planches de CP et des tasseaux. Et on construit comme ça, soit des feuilles simples, donc il n'y a qu'un recto, soit des feuilles doubles qui sont recto-verso si on veut voir les deux faces de la feuille. Ça dépend vraiment du projet.
Vous investissez un lieu, quelquefois un lieu qui a été vidé ou un lieu qui est vivant, qui existe sans le tournage?
Ça se passe bien en amont du tournage, puisque la première étape, du coup, c'est le repérage des décors. Donc, il y a un repéreur qui visite plein de décors selon le scénario qu'il a reçu, qui sélectionne des décors que nous, on va voir. Je dis nous, mais je ne suis pas toujours là, mais que le chef décorateur, en tout cas, va voir. Et il y a une discussion qui est à la fois économique, logistique et artistique sur chacun de ces décors-là, puisqu'il faut que ça puisse convenir à tout le monde, à la fois à la régie qui va devoir garer 12 camions à côté puis ramener tout le matos dans le décor, puis à la fois artistique pour nous et puis pour que ça convienne au réalisateur ou à la réalisatrice. Je pense que ce qui est plus compliqué, c'est les décors vides. Parce que les décors vivants, au moins on a une base et on s'inspire de ce qu'il y a déjà dans le lieu. Et puis dans tous les cas, à chaque fois qu'on arrive dans un décor qui est déjà habité, une maison ou une boutique ou un café ou peu importe, on réutilise souvent ce qu'il y a déjà, pour des raisons économiques mais aussi pour des raisons de justesse. Parce qu'on ne peut pas... on part de ce qui existe et on magnifie ce qui existe, mais on n'invente pas tout. Inventer tout, c'est plus compliqué, je trouve, que de partir de quelque chose qui est déjà là.
Vous avez élaboré les décors pour La Fracture de Catherine Corsini, et là, c'était un décor que vous avez complètement construit, et c'est donc un décor d'hôpital. Vous aviez visité des hôpitaux avant pour voir comment c'était ?
Alors moi non, c'était un peu compliqué, c'était en pleine période de Covid. Donc c'était difficile de visiter des hôpitaux. Moi sur le film, j'étais seconde assistante à ce moment-là et j'étais là pour dessiner tous les plans. Mais le chef décorateur et sa première assistante ont visité plusieurs hôpitaux, ont fait des reportages photos dont on s'est vachement inspiré pour réaliser les décors. On est parti de plein d'hôpitaux existants, on a fait beaucoup de dossiers photos et on a redessiné l'hôpital grâce à ça. Mais oui, on était en sous-sol d'un bâtiment désaffecté Airbus et qui n'était pas du tout un hôpital. Mais on a gardé quand même un peu l'esprit de ce lieu-là. On a gardé le sol, on a gardé certains murs, un peu d'équipement. Donc on a fait avec ce lieu. C'était très compliqué à la construction quand même, parce qu'il faut s'adapter à ce lieu qui était difficile. Mais apparemment, ça a bien marché.
Sarah Turoche, à présent, nous explique les études qui l'ont amenée à devenir monteuse.
Je suis devenue monteuse après avoir fait des études de lettres et une école de cinéma qui s'appelle la FEMIS. Il y en a plusieurs maintenant qui sont très bonnes, mais une des écoles publiques, en tout cas à l'époque, il n'y avait que Louis Lumière et la FEMIS qui étaient les écoles publiques en France. Qu'est-ce que le montage ? Le montage, c'est la dernière étape de ce qu'on appelle l'après-tournage. C'est-à-dire que pour faire un film, il faut commencer par écrire un scénario, le produire, évidemment, le tourner, donc le mettre en scène et le tourner, et ensuite le monter. Quand on est monteur, on récupère tout ce qui a été tourné pour le film, les images et les sons. On parle parfois à tort de monteur-image, ce qui n'a aucun sens, puisqu'évidemment, pour nous, quand on travaille, on ne monte pas des films muets. Donc, il y a des étapes qui sont organisées par un assistant, qui synchronisent des rushs, c'est-à-dire qui mettent les images et les sons de manière synchrone, hein, et nous, on travaille à partir de cette matière. Alors, s'il s'agit de la fiction, les séquences sont organisées, enfin, on suit l'ordre du scénario, du moins dans un premier temps. Donc on monte avec l'aide du scénario, même si parfois c'est amusant de monter les rushs sans savoir ce qui a été écrit, pour voir ce qu'on comprend de ce qui a été tourné. Et en documentaire, là, il faut regarder tout ce qui a été tourné pour pouvoir se faire une idée et se dire qu'est-ce qu'on va raconter avec ça. Parce que le fond du montage, en fait, c'est raconter des histoires et aider un réalisateur, plutôt accompagner un réalisateur dans sa démarche, c'est-à-dire l'accompagner dans l'écriture de son film et dans la réalisation de son film.
On dit ça que les réalisateurs, ils font 1, 2, 3, 10, 15 prises. Qui choisit la bonne prise ?
Alors déjà, il n'y a souvent pas une bonne prise. Souvent, on prend des éléments dans plusieurs prises. Et ensuite, c'est assez variable. C'est-à-dire qu'on va parler de la fiction. Il y a des réalisateurs qui aiment être là dès le début. C'est-à-dire que là, on dérush ensemble. Donc, on regarde ensemble tout ce qui a été tourné. Et on parle du jeu des comédiens et on dit peut-être que dans cette prise-là, il est formidable sur telle réplique, mais qu'il est meilleur dans telle autre prise, etc. Et puis, il y a des réalisateurs qui préfèrent venir une fois que la séquence est montée et qu'on leur propose une première version. En tout cas, c'est une proposition de nous, comment on a compris la scène. Donc après, on peut parfois être tombé juste, parfois être passé à côté de choses. Et surtout, une fois que c'est fait, ça donne souvent d'autres idées. En fait, pour moi, le montage, c'est une espèce d'immense partie de ping-pong qui dure plusieurs semaines, où on essaye quelque chose, ça nous donne une idée, on rebondit sur autre chose, on tâtonne, on avance, et à un moment donné, en fait, le film est là. Alors c'est assez... mystérieux. C'est presque... ouais, assez mystérieux et assez magique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en général, on est d'accord et on se dit, voilà, là on a essayé pas mal de choses, on est parti d'un moment dans une mauvaise direction ou dans une bonne, et tout d'un coup, le film est là, il a trouvé son rythme, il a trouvé son souffle, il n'y a pas de choses qui nous manquent, on est content du résultat. Évidemment, chaque film a son propre style et ses propres difficultés. Mais aujourd'hui, on donne traditionnellement en télévision 8 semaines pour monter un téléfilm d'une heure 30, qui a été tourné en général en 3 semaines. Donc on est un peu plus du double. Pour un long métrage, on sera entre 12 et 20 semaines, 12 étant vraiment un minimum. Et en documentaire, pour un 52 minutes, je dirais 6-7 semaines. Après, il y a des films qui mettent 6 mois à se monter et d'autres qui peuvent se faire en 4 semaines.
Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier ?
Ah, il y a plein de choses que j'aime dans ce métier. La première chose, c'est que chaque projet est différent. Et qu'à chaque fois, je travaille avec des réalisateurs différents, même si j'en retrouve certains au fur et à mesure des années. Et donc, c'est à chaque fois un univers nouveau dans lequel je dois me plonger. Donc, il n'y a vraiment aucune routine. Et ça, c'est quand même très amusant. La deuxième chose, c'est qu'il y a un vrai plaisir de manipuler la matière, de partir d'heures et d'heures et d'heures de rush pour arriver tout d'un coup à un film. Et la troisième chose, c'est que moi, je suis assez admirative en général des réalisateurs. Alors, je dis réalisateurs, mais évidemment aussi des réalisatrices. Et je trouve que les accompagner dans l'intimité de la salle de montage, c'est-à-dire à un moment donné où on est deux et on a le temps de réfléchir, pour moi, c'est incomparable par rapport à l'ambiance du plateau, par exemple.
Vous avez choisi un métier qui me semble un métier aussi de solitaire, mais est-ce que je me trompe ?
C'est pas vraiment solitaire. D'abord parce qu'on est une équipe. En général, moi, j'ai une assistante avec qui je travaille, alors qui n'est pas tout le temps là sur la durée, mais qui est quand même pas mal là. Et puis, on est deux, on est avec le réalisateur. Et puis derrière, il y a toute une équipe, il y a un producteur qui vient voir le film, il y a des diffuseurs, bon, même si on les voit assez peu, mais après il y a le montage son, je travaille beaucoup avec les musiciens qui composent la musique du film. Donc en fait, je croise quand même pas mal de monde. Ensuite, alors ça c'est vraiment une histoire de goût personnel, moi je suis pas très à l'aise sur un plateau, ça va dans tous les sens, il y a énormément de gens, je sais pas trop où trouver ma place. Donc quand j'ai réfléchi à quel métier je voulais faire dans le cinéma, j'ai fait des stages, j'ai essayé différentes choses et j'ai vu tout de suite qu'au montage, c'est exactement l'endroit où je devais être. Je pense que la première qualité pour un monteur, c'est d'être un bon spectateur. C'est de savoir regarder des images, de savoir à la fois les analyser et à la fois d'avoir suffisamment d'émotions et de croire au projet pour essayer d'en tirer, de dire qu'est-ce que là-dedans, qu'est-ce qu'il y a de mieux, quoi. Et la deuxième chose, c'est un métier un peu de patience. Parce qu'on fait, on refait, on défait, on re-refait. Et dans les étapes de travail, donc la première étape, qui est l'étape du dérushage, il faut regarder évidemment ce qui a été tourné.
Et s'en souvenir aussi.
Et s'en souvenir, donc on prend beaucoup de notes. Moi j'ai des cahiers entiers avec plein d'annotations. Donc par exemple, pour une fiction, je vais noter des différences de prise. Ou dans ma machine, puisqu'on est en virtuel, je vais mettre des marqueurs avec plein de notes. Puis, c'est un métier de réflexion, de dire comment on raconte la scène, par quoi je commence, qu'est-ce qui serait le mieux. Et une fois qu'on l'a vu, se dire, en fait, on peut faire mieux.
dans la première partie du feuilleton Les Invisibles du cinéma par Soisy Global, et vous avez entendu Sarah Turoche, monteuse, Laura Bucher, décoratrice, Frédéric Le Gall, repéreur, Colette Caisson, productrice, et Rémi Giordano, scénariste. On les retrouve la semaine prochaine dans l'émission De Boules Vanillées sur Canal B pour la suite de leurs aventures invisibles au cinéma.
Qu'est-ce que je t'ai déjà dit ? Pas de vieilles rengaines. Si tu veux pas que les gamins désertent la piste, il faut leur mettre des tubes de hit parade. Tu veux toujours être DJ ?
Ouais, mais je vais les convertir. Laisse-moi essayer, rien qu'une chanson. Je te garantis de remplir la piste.
Bon, mais une seule.
À suivre la première partie d'une série musicale que je vous propose autour de la Northern Soul. Qu'est-ce que c'est que ce genre musical qui faisait que certains Anglais, dans le cours des années 1970, ont fait des périples aux États-Unis pour essayer de trouver des disques encore plus excitants et dansants que ceux estampillés par les labels Motown, Stax ou bien OK. La Northern Soul naît en 1968, mais il faut attendre 1970 pour que le grand public en entende parler à travers un article de Dave Godin paru dans le magazine Blues and Soul, et qui faisait suite, cet article, eh bien, à son passage au Twisted Wheel Club à Manchester, où était né 2 ans auparavant ce genre-là, et on le trouvait dans son acte de naissance dans la boutique de disques Soul City, boutique qu'il possédait à Covent Garden à Londres. Vous entendrez aujourd'hui des extraits du film Northern Soul, réalisé et écrit par Elaine J. Constantine, sorti en 2014, et qui nous relate l'histoire de 2 habitants du Lancashire qui, pendant les années 70, eh bien, vont fuir leur quotidien dans une petite ville pour aller découvrir ces disques américains complètement excitants, comme celui qu'on va entendre pour débuter maintenant, Edwin Starr. C'était en 1970 qu'il sortait ce Fantastic Time pour un label très connu, c'était le label Tamla Motown. C'est parti pour cette plongée au cœur de la Northern Soul.
It's getting harder.
Turning my heartbeat up.
Ooh, ooh, ooh.
Turning my heartbeat up.
I keep on telling you, you're turning my heartbeat up, baby.
ces paroles. Je les ai notées parce qu'elles m'ont vraiment frappé.
Toby Legend ?
Ouais, ça me parle, tu vois. Ça a l'air con, ce que je dis ?
Putain, t'as pas chômé ?
Ouais. La vie ne dure qu'un instant. Tu dois la voir en grand.
Saisis
ta chance, n'attends pas où la vie continuera sans toi. Tu vois ce que je veux dire ?
Bien sûr. La soul, c'est le pied.
C'est ça qui est génial avec cette musique, mec. Tu peux écouter n'importe quelle chanson, ça te parle direct.
Passing seasons all but fade away into misty clouds of autumn gray. As I sit here looking at the street, little figures quickly moving feet. I'm just a pebble on the beach, and I sit and wonder why. Little people are running around, never knowing why. Oh, no, life is just a precious minute, baby. Open up your eyes and see it, baby. Give yourself a better chance, because
de Northern Soul, de tous les labels. Ce morceau, c'était de la bombe.
Je connaissais pas jusqu'à ce soir.
Pas étonnant, t'as l'air de sortir des années 50.
Et ta façon de danser, j'avais l'impression de voir Bruce Lee.
Attends, je te montre. Fais comme moi. C'est ça. Ensuite, tu pivotes les pieds. Vas-y, essaye. Comme ça. C'est ça. Tu sais le faire. Tu connais les pas de base.
Yes, I will. was my baby's specialty. And told her I didn't know her love was that strong. If she's not just a little patience, baby, I was surely coming home. And I'm coming home in the morning. Oh yes I will. I'm coming home in the morning.
Nous, on se barre aux States. On va aller chercher des disques. Ils ont des sous-sols et des entrepôts remplis à rabord.
Tu déconnes.
Il a des contacts à Détroit, à Chicago. Je vais ramener des tas de trucs que personne n'a jamais entendu. On se battra pour m'avoir comme DJ.
Bam!
maintenant, je vais vous mettre de la vraie musique. Voici le moment que vous attendiez tous avec impatience. Je veux vous voir tous danser sur cette chanson géniale de Frankie Valli. Ça s'appelle The Night.
Cet été, dans l'émission De Boule Vanille, je vous propose de plonger au nord de l'Angleterre dans les années fin 1960 jusqu'au début 1980 pour découvrir la Northern Soul. C'était Frankie Valli and the Four Seasons avec ce fantastique The Night, sorti en 1972 et qui sera un tube de la scène Northern Soul. Le single sera même réédité en 1975 et sera repris notamment par Pulp pour une Black Session en 1992. Et puis plus récemment, en 2023, par le groupe Food Fight. C'est un morceau sur lequel les danseurs s'éclataient dans les clubs comme le Twisted Wheel à Manchester qui fermera en janvier 1971 ou encore The King Mojo à Sheffield, The Blue Orchid à Crewe, The Cat's Whiskers à Burnley, le Vavas de Bolton, le Holgate à York ou encore The Torch à Stoke-on-Trent, sans oublier les deux clubs les plus importants de la scène, le Wigan Casino et le Blackpool Mecca. Tout à l'heure, c'était les Anglais des Dexys Midnight Run qui reprenait en 1980 ce classique Northern Soul, Breaking Down the Walls of Heartache, par les Bandwagons qu'on écoutait auparavant. Et puis vous avez entendu des extraits du film Northern Soul d'Elaine J. Constantine, sorti en 2014. Vous avez entendu Lou Pride avec I'm Coming Home in the Morning, Toby Legend et Time Will Pass You By, The MVPs Turning My Heartbeat Up, et puis tout à l'heure Edwin Starr avec son single pour Motown en 1970, le morceau Time. On reviendra dans les autres émissions de Boule Vanille que je vous proposerai cet été sur la Northern Soul, mais on termine avec un titre résolument contemporain, sorti de cet été 2023 pour le groupe de Tel Aviv, The Faithful Brothers, qui rend hommage donc à ce slogan des fans de Northern Soul, Keep the Faith, on garde la foi dans une soul très dansante. On retrouve tous les ingrédients de la Northern Soul, un tempo rapide, un petit vibraphone, une basse bien en avant et puis l'envie de danser jusqu'au petit matin avec ou sans Magic Pills. Dance My Heart Away, les Faithful Brothers. C'était les Faithful Brothers d'Israël à l'instant avec le titre Dance My Heart Away, single de cet été 2023 sur le label Mr. Mellow. On termine Double Vanille avec ce premier morceau de choix, une chronique proposée par Ronan Chaplin qui fera revenir quelques mélomanes sur leurs morceaux de prédilection. Aujourd'hui, c'est Michael qui nous parle de sa découverte du monde de demain par Supreme NTM. On se retrouve bientôt pour De Boule Vanille sur Canal B. Retrouvez playlist et podcast sur canalb.fr. Bel été sur Canal B et ailleurs. Ciao.
Morceau de
bravoure.
Hacher le morceau. Recoller les morceaux.
Les morceaux, le morceau.
Manger le morceau.
Morceau.
Morceau. Le morceau.
Porter le morceau.
Morceau.
Choisi.
Morceau choisi.
Morceau de choix.
De choix.
De choix.
Morceau de choix.
Le monde de demain, du Supreme NTM, du premier album en 1991. J'avais prêté 10 francs à un copain de l'époque qui voulait aller s'acheter des bonbons à la pause du midi au collège, et donc je lui ai prêté ces 10 francs là. Il m'avait dit qu'il me les rendait rapidement, mais 3 semaines après j'avais toujours rien, puis en fait à la pause à 10h il arrive avec cette cassette là et qui me dit bah écoute, j'ai pas 10 francs mais j'ai cette cassette là. Sur le coup un peu déçu. Et donc je regarde, je vois ça, Supreme NTM, authentique, je me dis qu'est-ce que c'est que ça. Il me dit ouais, c'est un groupe de rap, c'est français, mon frangin n'a pas aimé, mais bon, ouais, mais bon voilà, je pense que tu verras, je pense que ça va te plaire. Un peu déçu sur le coup de ne pas récupérer mes 10 francs, mais bon, je rentre chez moi et sur mon radio cassette, je mets ça et à la première écoute, j'ai été un peu surpris. Je trouvais ça hyper agressif, pas du tout les codes. Rap français, je connaissais pas trop. À part un morceau où je trouvais qu'il était un petit peu plus groovy et les paroles étaient beaucoup plus. Me parlaient quoi. C'est le monde de demain.
On va tout foutre en l'air.
Et il y a quelque chose en fait qui moi m'a parlé, qui était en rapport aussi avec moi je vivais en HLM, mes parents étaient ouvriers, et dans ces paroles là, et qui ça m'a un peu marqué, parce que je trouvais que ça me correspondait un petit peu dans le fait, voilà, c'était le fait de dire, voilà, le refrain, moi, m'a beaucoup parlé, c'était le monde de demain, quoi qu'il advienne nous appartient, la puissance est dans nos mains.
Je ne te demande pas de compromis, de résoudre des problèmes qui habitent la banlieue qui s'agit toujours plus vite, sans limite, admet qu'il y a un point critique à ne pas dépasser. En tant qu'informateur, je me sens obligé de dévoiler la vérité, car le silence ne sera plus jamais toléré. Oh oui, c'est triste à dire, mais tu n'as pas compris pourquoi les jeunes de mon quartier vivent dans cet état d'esprit.
Ben voilà, quand on est jeune, on a envie de bouger, on a envie de faire des choses, et puis il faut croire, quoi. Faut pas spécialement écouter les anciens. Donc voilà, moi je me suis raccroché à ça. Ça a été pour moi la découverte de plein de choses et un message, moi, qui m'a beaucoup plu, quoi.
Le monde est demain, quoi qu'il advienne, nous appartient, la puissance.